RTL L'équipe.
Croisée courte gagnante.
Clément Tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis matins pour Carrément Tennis, toute l'actu de la petite balle jaune durant une heure sur votre radio du sport et de l'info. Et l'actualité est particulièrement chargée dans cette période de transition entre le dur et la terre battue. On va bien sûr longuement revenir sur ce fantastique début de saison de Novak Djokovic qui réussit le 100% depuis le début de la saison avec l'Open d'Australie, Dubaï et puis les deux Master 1000 sur dur aux États-Unis, Indian Wells et Miami. Il est invincible, 24 matchs d'affilée, 26 si on rajoute les deux en Coupe Davis fin décembre face à la France. Qui peut battre Novak Djokovic en ce moment? Personne. Roger Federer s'est cassé les dents, Rafael Nadal s'est cassé les dents à deux reprises, mais attention, l'Espagnol était encore plus proche qu'à Indian Wells. À Miami, il est passé à deux points du match, n'empêche, c'est bien Djokovic qui l'a emporté. Alors Djokovic, futur numéro 1, Djokovic peut-il battre Nadal sur terre battue au moment d'aborder la saison sur surface ocre avec Monte Carlo dès la semaine prochaine, un tournoi que Rafael Nadal a gagné 6 fois consécutivement. C'est arrivé nulle part ailleurs dans l'histoire. Nadal qui a le grand chelem de la terre à défendre avant Wimbledon et l'US Open. Rafael Nadal, que certains estimaient un petit peu en dedans du côté de Miami, pourtant ça s'est bien passé. Roger Federer, pour lui, les affaires se compliquent désormais parce que si c'est pas Nadal, c'est Djokovic. Si c'est pas Djokovic, c'est Nadal et il n'y arrive plus, le Suisse, face à ces deux monstres qui ont pris le large devant au classement. On va revenir également sur la rupture, un petit peu surprise, même s'il y avait quelques signes, quelques prémices, on pensait pas que ça serait si rapide, entre Eric Vinogradsky et Joe Wilfried Tsonga, le manceau qui veut donner un nouvel élan à sa carrière en créant sa propre structure. Exit tout le giron fédéral, il va monter sa propre structure. Mais alors avec qui? On va se poser la question, qui pour entraîner Joe Wilfried Tsonga dans les prochaine semaine? Vous allez voir que c'est pas si évident à trouver un entraîneur pour Joe Wilfried Tsonga. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour tout de suite. On vous expliquera pourquoi. Chez les filles, il y a eu du retour dans l'air. Également celui de Maria Sharapova en finale du côté de Miami, mais battue par Azarenka qui elle aussi fait un très beau retour au premier plan. La Biélorusse, désormais 6e mondiale, ça a coincé un peu plus tôt pour Caroline Wozniacki et surtout ça a coincé et pour les semaines à venir pour Kim Clijsters, désormais absente pour au moins un mois, blessée à l'épaule et qui laisse filer la Danoise très loin devant au classement. Enfin, la Fed Cup avec le match face à l'Espagne de barrage. La composition de l'équipe de France à Ravan Reza, Alizé Cornet, Virginie Razzano et Mathilde Johansson, point de Marion Bartoli, mais ce n'est pas une surprise.
Like RTL L'équipe, Carrément Tennis.
L'équipe est au complet aujourd'hui pour Carrément Tennis. Les garçons ne m'ont pas laissé tranquillement avec les filles une semaine de plus. Trop jaloux, trop peur. Mais alors moi aussi je suis jaloux, je vous le dis tout de suite, parce qu'autour de la table, il n'y a que des bronzés. Et ça m'énerve particulièrement, moi qui suis complètement blafard. Myrtille Rambion, qui revient de Miami. Regardez-moi ce bronzage.
Ah bah c'est sûr que c'est très radiophonique. Regardez-moi.
Ouais, quand même.
Le tacle.
Et vous arrivez à Monte Carlo demain avec déjà le bronzage. C'est scandaleux. Benoît Mélin aussi est très bronzé pourtant. Alors là, on se demande pourquoi.
Il y a Anguille.
C'est sur votre terrasse de votre bureau, comme vous avez rien à faire, ou c'est quoi le problème?
C'est la santé. J'irradie, je suis solaire.
Oh oui.
Voilà, je crois que je viens de me définir, je suis solaire.
On l'a vu arriver sur ses deux pieds, sa hanche a tenu, même sur les pistes de ski.
Et oui, c'est vrai.
Petit bronzage de nordiste quand même, parce qu'il est un peu rouge, mais c'est normal, il est du nord. Salut Julien Barry.
Bonjour à tous.
C'est bien passé le ski?
Très très bien.
Attendez, moi je l'ai vu juste après. Dès qu'il a mis le pied à Paris, je l'ai vu. Eh ben, il était plus rose encore.
Le tacle venait d'Émilie Lois, qui allait en pleine forme. Salut.
Bonjour.
Pas de ski pour vous.
Non,
interdit pour les prochains mois. Carole Bouchard, bonjour.
Bonjour à tous.
Elle, c'est les néons de l'équipe.fr qui la font bronzer nuit et jour.
Nuit et jour, on
lâche
rien.
Son boulot qui n'arrête jamais. Allez, on recommence, bien sûr. J'ai envie de dire, toutes les semaines, c'est un peu la même chose.
Et ouais,
Novak Djokovic gagne. Novak Djokovic est le plus fort. Novak Djokovic est invincible à ce moment. Il a réussi le doublé. Indian Wells, Miami. Impressionnant, Julien Varlet. On a l'impression de se répéter un peu. Mais bon, semaine après semaine, ça n'en prend que plus d'ampleur.
Oui, même si Nadal, tu l'as dit, était très très proche. Mais moi, sincèrement, d'enchaîner les deux tournois Indian Wells et Indian Wells et Biscayne, je trouve ça hallucinant. Plus son début de saison. Mais il plie pas du tout. Je pensais qu'il allait plier sur peut-être en quart ou en demi à Biscayne. Et il l'a fait. Donc, maintenant, on va arriver sur terre battue. C'est quand même autre chose. Mais je trouve ça complètement assez hallucinant, cette cette série.
Alors, on va prolonger le débat, bien sûr, sur la terre battue. Peut-il continuer après? On va d'abord s'intéresser à ce tournoi de Miami. Il n'a pas coincé, Carole, ça c'est clair. Et moi, j'ai vu un Djokovic extrêmement impressionnant dans la gestion, notamment des points importants en finale contre Nadal. Aucune double faute, ça je retiens aussi, lui qui a eu tant de problèmes au service l'année dernière quand il était avec Todd Martin. Aucune double faute, même quand c'est devenu très chaud. On oublie aussi les problèmes de chaleur, d'allergie. Il faisait 30 degrés, il a joué 3h20 sans le moindre problème. Donc un peu de cinéma peut-être là-dedans, même si le taux d'humidité était assez faible.
On verra là en Europe quand il va revenir. C'est parce que la saison dernière, c'est sur Terre que les allergies étaient parties. Mais moi, plus que le titre, c'est la manière qui m'a laissé. Mais j'ai halluciné parce que moi, je pensais aussi, comme Julien, que l'enchaînement, il allait commencer à coincer. Et contre Nadal, moi, c'est la première fois que je vois un joueur qui fait craquer Nadal mentalement et physiquement. À la fin du tie-break d'un match qui est quand même hallucinant de qualité, Nadal, il était rincé. Mentalement, et j'ai vu Tony Nadal se lever sur tous les points comme pour une finale de Grand Chelem. Donc, franchement, Djokovic, je pense que c'est là qui marque encore plus les esprits, c'est que sur sa ligne de front de court, il est au niveau et cette fois meilleur qu'un Rafael Nadal.
C'est vrai que Tony Nadal était de retour. Myrti, vous étiez là-bas à Miami. Alors, cet enthousiasme, on en a parlé juste avant l'émission, vient aussi du fait qu'il n'a pas gagné Miami, Nadal. C'est un des seuls tournois qui lui a échappé.
Et puis, d'habitude, c'est pas Tony Nadal qui était là à Miami, donc c'était un peu différent. Et je pense que le fait de ne pas avoir gagné, c'est compliqué. Mais moi, très honnêtement, Rafael Nadal, je l'ai trouvé très impressionnant jusqu'à la finale, en particulier contre Roger Federer. Et en finale. Alors, il se déplaçait toujours plus vite que le joueur lambda, mais il avait quelques petits problèmes, notamment dans les déplacements latéraux de droite à gauche. Il s'est fait dépasser en coup droit pas mal de fois. Donc, je trouve que Djokovic était plus fort physiquement. J'espère que ça va tenir et que c'était juste un petit coup de moins bien. Il faut dire qu'il fait extrêmement chaud. C'est-à-dire que même quand vous allez jouer, par exemple, à 5-6 heures du soir, c'est hallucinant, donc imaginez à 13h en plein
carrière.
Mais est-ce que c'est pas aussi tactiquement que le fait que le jeu de Djokovic face à Nadal lutte plus qu'un contre Federer, c'était monumental, il n'y a pas eu photo, il en a fait ce qu'il voulait. J'ai l'impression que quand il joue maintenant Djokovic, il n'arrive pas à s'imposer tactiquement, du coup effectivement il s'use beaucoup plus.
Bah disons qu'avec Djokovic les échanges durent beaucoup plus longtemps, non mais l'un qu'avec Roger Federer,
il a un revers,
il craque
Djokovic
quand même beaucoup moins facilement quoi.
Bah moi il m'a des trucs que j'ai pas compris dans cette finale. Autant Indian Wells, bon j'ai compris, il cale, il lui manquait, on va dire un mois à cause de sa blessure. Bon, le service qui passe pas du tout dans le deuxième et troisième set à Indian Wells, ok, on comprend. Là, à Miami, comme l'a dit Myrti, parcours étincelant, rien à dire. Il marche sur Federer comme si c'était un Benjamin, quoi.
Monstrueux.
Et il arrive sur Djokovic. On se dit, bon, ça va être chaud quand même. C'est chaud.
Ouais,
c'est chaud, mais il y a quand même des trucs, moi, qui m'ont interloqué, notamment le pourcentage de points gagnés par Djoko sur la seconde balle.
Elle
est
énorme,
quand même à 70% de points gagnés sur seconde balle.
Mais tu l'as vu,
c'est Nadal.
Il sert pas
là,
bien.
Là, je comprends pas.
Mais t'as vu la deuxième balle.
Il sert pas très très bien. Il y a pas un très bon pourcentage de.
Mais la deuxième de Djoko,
de
elle est haute. Elle est pas mauvaise du tout.
Si, il a un gros pourcentage de première, Djoko, en plus. T'inquiète pas. Ça passe à première.
Non, Djoko, je te parle de Rafa.
Non, je te parle de Djoko. Des points gagnés par Djokovic sur sa seconde balle. Il a 70%.
Excuse-moi, je croyais que c'était
contre Nadal.
Oui, mais Nadal n'a jamais été un mec qui agressait ses adversaires.
Ah, il est un très bon retourneur. Mais
enfin, potentiellement. Après, il te renvoie la balle et il va te fracasser en fond de court.
Oh, mais la deuxième
balle
de Djokovic,
le nombre de points gagnés avec plus de 8 échanges,
c'est ça surtout.
C'est quasiment, mais 3 fois sur 4 le point pour Djokovic.
C'est ça.
J'aimerais savoir ce qu'a fait Djokovic en 6 mois. Franchement, les progrès qu'il a fait, c'est tout juste c'est irréel.
Je pense qu'il va falloir qu'il se remplume le pépère parce qu'il me fait penser à mon fils. Il a fondu là en l'espace
mais
de 3
avec
mois.
Tous ces matchs, c'est un peu logique, mais là.
Ouais, mais là sur Terre, s'il se remet pas un peu du.
Au contraire, de la légèreté sur Terre, c'est très bon.
Ouais, il va être léger.
Ah ouais, mais là, il fait maladif là. Sur la fin de Miami, il est, mais c'est une lame.
Il y a une saison, il a fait prendre des muscles, ça n'avait pas aidé. Je me souviens d'une saison, c'était quand il y a 2 ans, on lui avait dit t'es trop maigre, faut que tu prennes du muscle. Djokovic était déjà foutu de lui en disant bah t'as des problèmes, toi, faut que tu prennes du poids super. Et ça n'avait pas aidé. Donc donc je pense qu'au contraire ils ont essayé de sécher pour essayer que ça fonctionne mieux.
Mais là, ce qui m'effare, c'est qu'avant il stressait quand même pour finir les matchs. Il fait un tie-break. Alors je veux bien que ce soit pas le meilleur tie-break de Rafael Nadal depuis le début de sa carrière.
Ouais,
c'est
quand même.
Mais quand on regarde quand même la gestion de Djokovic, c'est tout juste impressionnant.
Pour moi, il y a un point,
6-5, 15-30
aussi. Il y a un point qui caractérise ce tie-break et ce match en particulier, c'est le point à 2-2 au tie-break. Où Djokovic rentre dans le court avec son coup droit et fait visiter vraiment, mais alors 4 fois à Nadal, tous les angles, Nadal qui se bat tant bien que mal. D'ailleurs, il aurait peut-être dû laisser filer cette balle. À l'arrivée, comme dit Myrti, un Nadal essoufflé, et derrière, double faute, et derrière, ça s'enchaîne. 3-2, 4-2, 5-2, 6-2.
C'est le tournant du match.
Après, il revient un petit peu, mais c'est trop tard. Et sur ce point, Djokovic fait 4 ou 5 attaques d'affilée sans rater, à 2-2 au tie-break après 3h20 de jeu, et Nadal. S'épuise à courir au fond du
court. C'est la confiance
aussi.
Ça lui
pourrit le tie-break.
C'est la confiance. Avant, sur ces points-là, il aurait peut-être craqué, il aurait peut-être lâché. À 6-5, 15-30, il y a un super revers gagnant de Rafa. Moi, je me dis, ça y est, ça peut être terminé. Et Djoko, au contraire, il reprend des risques. Et comme il est en confiance, il lâche des coups qu'il ne l'aurait peut-être pas fait avant. Et c'est pour ça, c'est vraiment mentalement, moi, pareil comme Émilie, c'est plus le même joueur.
On a l'impression que oui, la différence vraiment sur ce match s'est faite sur la confiance. C'est-à-dire que Nadal était toujours un peu pas inquiet, mais on sentait bien que c'était voilà, il était au
il
contact.
Il a pas de marge.
Il y a pas de balle de break
il
dans le troisième set.
Mais il a pas de marge contre Djokovic.
Donc c'est quand même super serré.
Mais il est sur la dynamique des victoires, donc automatiquement tu rentres un peu plus à l'intérieur du terrain, tu tentes un peu plus et son Nadal le ressent donc. Mais moi j'hallucine. À un moment ou à un autre, de toute façon, il va avoir un coup de pompe, c'est pas possible autrement, parce qu'il peut pas jouer comme ça une saison complète. C'est impossible.
Mais alors, il bat quand même Rafa à son propre jeu, quoi.
C'est
toutes
ça.
Les filières longues,
tu vois,
mais c'est pas grave, il arrive.
Mais sur
l'autre, il le met, il est pas ridicule, parce que ce serait exagéré de ma part, mais tu sens qu'il est fatigué à la fin de beaucoup d'échanges, à la fin du match. Il a quand même, on le voit jamais, quoi.
Il crampait.
Il avait des crampes. Enfin, c'est.
Non, mais il l'a dit,
jamais vu, quoi.
Il a dit qu'il avait crampé dans le troisième set.
À l'époque, quand Federer est arrivé, on se disait, mais qui va battre Federer? C'est un truc, c'est un monstre. Après, il y a Rafa qui est arrivé, qui a battu Federer quasiment à chaque fois. Et là, il y a Djokovic. Bon, après, là, il y a la terre, donc là, c'est différent, mais tu te demandes même comment Rafa va aller battre Djokovic.
De toute façon, ils sont 1 et 2, donc automatiquement, Djokovic, ça va lui ouvrir pas mal de portes. Maintenant, s'il va aller chercher des titres.
La grosse différence entre Nadal et...
Il va potentiellement... Moi, la terre, je trouve que c'est vachement plus ouvert.
Ah oui, non, mais bien sûr.
Tu vas voir les Almagro et tous ces trucs-là, si jamais il se les tape sur son parcours, ça va...
C'est un très bon joueur de terre battue.
Alors, on va y venir à la terre battue. Juste, encore un petit truc sur cette finale de Miami. C'est la deuxième fois, puisqu'il y avait une Indian Wells avant. Avant, la différence aussi, c'est que Djokovic ne battait jamais Nadal en finale. Il avait déjà battu plusieurs fois, mais jamais en finale. Et là,
une fois, 5-1 hier en finale.
Ouais, 5-1
après Indian
Wells. Là, il vient quand même de le battre deux fois en finale de deux Master 1000. S'il manquait encore une dernière case à connecter pour la confiance, voilà.
Maintenant, après, c'est le truc, regarde, il y avait 5-0 en finale entre ces deux joueurs, entre Nadal et Djokovic, qui est maintenant le bloc de l'ATP, hein, parce qu'ils me font rire avec leur Nadal Federer.
Ah, c'est terminé.
Mais en confrontation pure, il y en a plus maintenant du côté de Djokovic et Nadal, en moins de temps en plus. Mm. Et tu te rends compte que, voilà, avant c'était Nadal. Nadal en finale gagnait tout le temps, Nadal sur terre battue, c'était tout le temps Nadal. Et tout d'un coup, le Djoko qui a profité du Nadal en 2008, tu sais, qui revenait, qui n'était pas terrible, là le Djoko, tout d'un coup, il t'aligne 3 victoires contre l'Espagnol, bop, ça commence à s'équilibrer un peu. Et puis, ça se bagarre bien en 2009-2010. Et là, en 2011, il n'y a plus photo.
Il n'y a plus photo.
Il n'y a plus photo parce qu'il gagne tout.
Dit que Nadal, il c'est dur pour lui. Mais en attendant, il ne joue pas forcément bien. Il fait quand même deux finales aux États-Unis. Il est à 2 points.
Il ne les avait jamais fait.
Ouais, non, mais bien, on a beau dire ce qu'on veut.
Et rappelons que c'était 95. C'était du jamais vu. 2 fois les mêmes finales. Et pardon, mais moi, je répète qu'en finale, pour moi, même s'il ne le dira pas, parce qu'il n'est pas à dire ça, pour moi, Nadal n'était pas à 100% physiquement. Dès le départ, il ne se déplace pas comme il faut. Donc fatalement, il se fait doubler. Qu'il se fasse autant dépasser sur son côté coup droit, franchement, c'est pas possible. Il
c'est
a beaucoup raté.
Il
s'est tenu le genou en plus.
C'est mauvais signe avant d'attaquer la terre.
Mais il est 5-1, premier set. Moi, j'ai vraiment l'impression aussi...
Premier set, il faisait très chaud. Et pour moi, Djokovic souffrait un peu de la chaleur et de l'humidité. Et comme ça a un petit peu baissé en degré, ça allait mieux derrière.
Après, il ne faut pas oublier que le gars, excuse-moi Carole, il a eu cette petite blessure, il a eu une blessure à l'Open d'Australie. Il revient, comme d'habitude, on se dit il peut perdre prématurément, c'est pas grave, c'est pas sa surface non plus. Le mec, il fait finale à Indian Wells, il cale, derrière, il rejoue. On va dire qu'il a pas eu des gros matchs très sérieux, si ce n'est contre Berdych, où là, il y a une petite alerte dans le deuxième set, il se fait manipuler, on sait pas du tout ce qui se passe. Il n'arrive plus à pousser sa balle, tout d'un coup, ça se remet en place. Même lui dit, moi, ça m'est jamais arrivé, je sais pas ce qui se
passe. Oui, c'était au niveau du cou,
il y a eu un espèce de pincement. Il arrive. Federer, je pense que t'arrives pas contre Federer en demi en jouant la castagnette, donc il a dû monter un peu en pression aussi. Il marche dessus, tant mieux pour lui, mais forcément, il a dû puiser un petit peu, puis il fait 2 finales d'affilée, quoi, quand même, le mec, dans des conditions climatiques qui sont énormes. Alors, je veux bien qu'il soit hyper résistant, mais on l'a vu sur cette finale, il commence tambour battant, il mène 5-1, il n'y a aucun problème, parce que Djoko, alors lui, il est stressé comme la mort, mais à partir du moment où Djokovic, justement,
comme il est tellement dominé dans le premier set, le Djokovic, on le voit, il n'arrête pas de faire des mouvements pour essayer de se décontracter. Il regarde son clan, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec son clan, mais c'était un peu chaud au début. Et puis après...
Il est pas en son retour, alors.
Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il mène 5-1, il doit gagner 6-1 ou 6-2 déjà.
C'est peut-être là que ça s'est joué aussi. Dans... Quand Novak a grignoté...
Oui, mais je ne sais pas s'il croit, Rafa, que le set est déjà dans sa poche à 6-1 ou 6-2, mais il y a quand même une... baisse de régime qui est clair.
Tu laisses revenir un peu le mec, même si tu gagnes le set,
ouais,
tu le remets
en piste. Parce que d'habitude, normalement, le deuxième est d'avoir ce coup de rein pour lui mettre 2-7.
Oui, mais il le remet pas. C'est pas lui qui sert, c'est Djokovic qui sert et qui est de toute façon qui ne joue pas, qui met pas une balle dans le court. Tous ses revers sont dans le filet. Il en était, je crois, à 15 fautes directes.
C'est la clé. Ça a été la clé. Une fois qu'il a retrouvé son revers, c'est pour ça que je pense que tactiquement, il pose un vrai problème à Nadal, comme un Del Potro a pu le faire, comme un Söderling. Il n'arrive pas à prendre l'avantage. Droit contre revers de Djokovic. Il a beau mettre autant de lift qu'il veut, le Serbe il a un tellement bon revers que ça revient tout le temps. Et là, ça lui, à mon avis, ça va cogiter parce que ça lui pose un vrai problème tactique qu'il n'a pas contre Federer.
Ah bah, c'est certain que quand il trouve le revers à une main de Federer à hauteur d'épaule, voilà. Il se régale.
Non, mais même
contre
là,
un revers à deux mains agressif et bien au-dessus de l'épaule.
Plus... Et même là, tu vois que Miami, quand même, le lift prenait énormément sur les courts de Miami et toutes les balles de Djokovic sont quasiment à hauteur d'épaule, du fond du court. Coup droit, revers. Il tape quasiment à hauteur d'épaule. Il n'est pas à hauteur de hanche. Eh ben, ça fait rien.
Le
mec,
dingue,
il tient plus de 3 heures. Et il balance des parpaings. À un moment, c'était vidéo game, le truc. C'était hallucinant, ce qu'il mettait
sur le court. Le dernier set est de très haut niveau.
Exceptionnel.
Mais Céline, ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle de prendre de la masse, d'être puissant. Et plus on en parle, plus on dit qu'il est sec comme une lame, tu dis, Benoît. Et en attendant, ça l'empêche pas d'envoyer des grosses chiches et frapper très fort et être puissant.
En parlant mais en parlant de ça, vous avez vu Rafael Nadal torse nu?
Il
a jamais
perdu,
vu.
Il est sec, hein.
Non, je sais qu'il a perdu, moi. Depuis
quand même,
non,
mais tu vois quand même la préparation physique.
Oui.
Il a un dos.
Ah, le dos, c'est
dingue. Il a pas de pec. Il a rien devant.
Mais
tu l'as vu.
Ouais,
vraiment.
Je suis assez d'accord.
Non, mais
surtout,
il est beaucoup plus fin qu'avant.
Oui, il est fin, mais je veux dire, il a pas de pec.
Moi, ça m'a surpris aussi. Ouais.
Tu t'attends, quand tu le vois comme ça, tu t'imagines sous son t-shirt.
Non, mais je pense qu'il a perdu, moi.
Non, mais tu vois, comme quoi c'est très important d'avoir un très bon dos, un dos bien développé, et les pecs, tu te rends compte que c'est pas important.
En tennis, c'est vrai que les pecs, c'est pas primordial.
Enfin, pas important.
Il en faut aussi, mais.
Non, regarde, non, ça vous a pas... tout sec aussi. Hein. Non, moi, ça m'a fait penser qu'il avait. Moi, j'ai
non,
trouvé
j'ai jamais trouvé très mais... bien dessiné. Enfin, il est pas. Il a jamais été très bien dessiné du torse. Il a toujours eu un dos dingue, un peu comme Borg d'ailleurs, mais il a jamais eu pec et abdos dessinés, quoi. Jamais. Federer non plus d'ailleurs.
Ils sont pas.
Alors que Djokovic il est taillé comme une serpe, quoi. C'est vrai que c'est pas pareil, mais non, Nadal, non, ça m'a pas.
C'est physique.
Non, ça m'a pas changé. Il y a un énorme écart entre son dos et ses pecs.
Ça a toujours été comme ça, je trouve, non?
Moi, j'ai eu l'impression qu'il avait un peu perdu musculairement, mais
bon, ça fait un moment.
Oui, mais voilà, ça fait un moment.
Depuis ses problèmes de tendinite au genou, on lui a demandé aussi de.
Non, mais effectivement, ça n'a jamais été Fernando Verdasco, quoi, en termes de pec et tout ça. Et Federer est effectivement.
Feliciano Lopez.
Aussi. Mais c'est vrai que Federer n'est pas non plus le plus dessiné.
Non, ils sont pas.
Garçons au top du circuit. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant.
Non, mais juste pour dire que c'est très important d'avoir un très bon dos. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Il est bien gainé.
Voilà.
Et je sais pas s'il y a que moi qui ai. J'ai eu l'impression que, par exemple, un Federer, quand il perd sur Nadal, bon, il perd contre Rafa, ça l'ennuie, mais c'est pas non plus gravissime. Moi, j'ai l'impression. Oui, non, mais il a appris. C'est pas non plus le.
Ah,
le
il l'avouera jamais. Hein, il l'avouera
oui,
jamais.
Mais moi, j'ai l'impression.
Le regard pendant le match, je peux
peut-être,
te dire.
Mais j'ai quand même l'impression que quand les deux, que ce soit lui ou que Nadal ou Federer, quand ils perdent maintenant contre Djokovic, il y a quelque chose de. Non, mais depuis quand ce type-là, il vient nous gâcher la fête?
Bah, c'est le nouvel arrivant.
Et moi, je trouve ça super bien pour le tennis parce qu'on a bassiné Djoko depuis 2 ans en lui disant, franchement, t'as pas de bol, t'es dans une génération où, en gros, tu vas rien gagner parce que les deux devant, ils sont tellement meilleurs que toi. Et le mec, il est en train de faire plier certainement le meilleur duo de l'histoire. Comme quoi, il faut les deux qui marchent sur l'eau, là, depuis le début de la saison, avec l'ATP, les exhibs, machin. Il va falloir se calmer.
C'est sûr que je suis d'accord. Si Djokovic devient numéro 1 mondial, je sais pas quand, hein, mais s'il devient numéro 1 mondial, là, sur
c'est
cette
énorme.
Saison 2011, avec du Federer qui, quand même, ne perd pas, si ce n'est contre ces deux-là, et qui dépasse Nadal, c'est... Alors là, j'avoue que là, c'est monumental.
Alors, on va faire vite, puisqu'à chaque fois, vous foutez de moi quand je parle des points, mais je vous fais quand même le point, justement. 3170 points désormais d'écart entre Nadal et Djokovic, donc il reste encore beaucoup de points d'écart. Mais, donc, il y a ce grand chelem de terre battue qui arrive pour Nadal. 1000 points à Monaco, 1000 points à Madrid, 1000 points à Rome, 2000 points ouais, à Roland-Garros.
Djokovic aussi, il a des points.
Il a rien à défendre quasiment.
Ça fait 5000.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Djokovic, que dalle. Enfin, que dalle.
Pas, tes points
pas,
tous les jeux.
Pas que dalle.
Non, mais je suis
mais d'accord, mais est-ce que mais tu crois
plus, il va pas faire premier tour, premier, crois, tour,
voilà,
premier tour
est-ce que tu crois que Nadal il va perdre à chaque fois au premier tour?
J'ai jamais dit ça.
Bah alors il non, va à chaque fois prendre des points.
Mathématiquement
non.
C'est jouable. Alors,
mais je vous lis la déclaration de Rafael Nadal.
Mathématiquement c'est jouable.
Je dis que je suis sûr qu'il sera numéro 1. Il a gagné un grand chelem, deux tournois, ça me paraît normal qu'il le soit. Dans un mois, dans deux mois, j'en sais rien, mais il le sera. Donc Rafael Nadal lui-même reconnaît que ça va arriver.
Mathématiquement c'est possible, on est à l'abri de rien. Maintenant effectivement je vois pas Nadal perdre en huitième, ne serait-ce qu'en huitième ou en quart sur terre.
D'accord, mais même, on si, sait même jamais. S'il gagne tous les tournois...
C'est là que c'est intéressant.
Non, mais Djokovic ne va pas gagner non plus tous les tournois.
Déjà, faut donner... Déjà,
parce que même si Nadal gagne tous les tournois...
Oui, voilà. Il n'a pas de marge. Ouais,
après, c'est la fin de l'année, de toute façon.
La
c'est après le Masters.
Tu me rejoins. Moi, je dis que Djoko va être numéro 1 dans l'année. Là.
Il a beaucoup de points à défendre.
Et Nadal reprendra peut-être en fin de saison. Voilà.
Mais ça va être intéressant, justement. Parce que moi, je me demande psychologiquement comment Nadal va. J'ai hâte de revoir une opposition Nadal-Djokovic.
Moi, je pense qu'il va pouvoir grappiller un petit peu.
Attends, vas-y.
Non, mais je suis sûr que Julien allait dire ça. Il va se rapprocher de Nadal là pendant cette saison 2011. Mais s'il y a une différence potentielle qui peut se traduire après au niveau des chiffres, ce sera sur la fin de la saison.
Parce qu'il a beaucoup de points à défendre, Djokovic, hein, fin de saison.
Rafa aussi.
En plus, de toute façon, ils sont un et deux mondiales.
Pour moi, c'est à la fin. Oui. C'est à la fin de la saison que Djokovic va dépasser Nadal. Enfin, si Djokovic dépasse Nadal, ce sera à la fin de la saison.
Le seul truc, c'est soit fin de saison, soit Nadal se blesse.
Soit il y a un des deux qui peut.
Non, mais là, voilà, c'est non, mais,
ah, mais là, si Nadal se blesse sur la tournée sur terre, là, il est mal.
Mais moi, j'espère juste qu'aucun des deux justement va péter en cours de route, parce que ce serait quand même super dommage pour le spectacle. Et du coup, j'espère qu'il y aura quelques impasses, au moins une.
Ah là, ils ont prévu chacun de rajouter un tournoi.
Ah oui, il y a Belgrade d'un côté et l'autre va aller à Barcelone.
Qui l'a pas fait l'année dernière pour la première fois.
Est-ce qu'un Madrid va pas. Tu vois, est-ce qu'un Madrid risque pas, comme l'année dernière, Djokovic n'est pas venu à Madrid, est-ce que...
Alors on va voir. On va
normalement,
voir.
Il va pas.
Non, mais de toute façon, Djokovic peut pas jouer comme
bah
ça
non,
toute
c'est
la saison.
Ça.
Djoko sur Terre, alors maintenant. On arrive sur le terrain de Rafa. Invaincu l'année dernière sur Terre.
On n'arrive pas que sur le terrain de Rafa.
Oui, mais attention. On arrive sur le terrain de Rafa. Là, on est en train de parler de la rivalité des deux meilleurs qui,
mais
pour l'instant,
Almagro,
sont
détachés.
Mais Almagro,
je suis d'accord avec Benoît. Almagro peut te faire des sacrés trous dans le tableau.
Oui, alors Verdasco a battu deux fois
Verdasco,
plus sur Terre
l'an
dernier.
Verdasco, il est mauvais comme un cochon en ce moment.
Ouais.
Tu vois,
un Ferrer.
Ferrer, il est terrible.
Sans rien. Moi, je suis curieux. Alors, Söderling, gros point d'interrogation, parce qu'il est quand même un petit peu touché, là, physiquement.
Il a l'air cramé, ouais.
Donc, on va voir s'il arrive à se remettre.
Mais là, Claudio, il arrive sur la terre battue.
Ouais, mais c'est ça le truc. C'est que Söderling, l'année dernière.
Sur le dur, c'était pas possible.
On va sentir, là, il n'y a plus Magnus. Justement.
Il a beaucoup discuté avec Stéphane Florissien qui est sur le circuit là pour nous pour Orange, et justement le mec est très sympa en plus avec Stéphane Florissien, très étonnant. Je sais pas comprendre pourquoi.
C'est le mec avec qui il est sympa. Il y en a qu'un.
Söderling, faut y aller quoi.
Mais je dis à Marseille, j'ai été surprise, ce garçon ouais.
Et Söderling lui a dit comme ça dans la discussion, il dit mais l'année dernière j'étais vraiment d'un stress monumental quand la terre battue est arrivée, parce que j'étais finaliste de Roland-Garros. Et il était hors de question que je ne sois pas au moins en deuxième semaine, voire en demi-finale à Roland-Garros. Donc je m'étais mis une pression de dingue. Mais il dit là, deux fois finaliste, potentiellement, on peut rien me dire. Quoi. En plus, j'ai perdu contre soit Fed, soit Nadal. Donc je ne peux pas faire mieux. Donc je vais arriver sur cette terre battue en me disant, allez, on y va, banco, allons-y gaiement, on verra bien ce que ça donnera. Et je... Je sais pas. Moi, je suis curieux de voir le Söderling sur ses premiers tournois.
Mon avis. Ouais.
Ah, carrément.
Ah, ouais. Söderling, pour moi, je veux voir.
Murray aussi, non?
Ah non.
Dans les trucs improbables.
Non, Murray, j'y crois pas.
Sur terre battue, Murray, même en forme.
Il y a les purges qui vont sortir de l'ocre, tu vois.
Verdasco aussi, mais pas.
Mais arrêtez avec ça. Alors, je m'offusque contre ce cliché-là. Pourquoi les mecs, ce serait des purges? Ah bah, mais attends, mais c'est super dur d'aller jouer sur terre comme ça.
Ne me dis pas que Raed Ferrer, c'est pas une purge.
Qui ça?
Pour les autres joueurs.
C'est un super joueur, Ferrer.
Oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Mais
pour les autres joueurs, purge, c'est à regarder ou c'est à jouer?
Non, c'est un enfer à jouer, quoi.
Ah bon, mais c'est magnifique.
Ah non, mais c'est
pas parce que ça m'énerve, il y a que les talentueux qui vous
grillent. Non, mais c'est pour avoir joué.
Moi, je
revendique,
j'adore
enfer.
Les purges.
C'est un enfer de jouer.
J'adore
Ferrer
les
rats,
les raccrocs, ah,
mais
c'est ça.
Mais d'ailleurs, la saison dernière, il me semble que derrière Nadal, c'était Ferrer le meilleur joueur de la saison sur terre battue. Donc,
et Ferrer a fait une très bonne tournée sud-américaine.
Mais oui, c'est pour ça que je te dis qu'il va faire
et
mal.
Almagro.
Almagro, ouais.
Si l'endroit, c'était Verdasco.
Verdasco, c'était Verdasco. Verdasco,
et Verdasco, c'était l'autre deuxième meilleur joueur sur terre.
Ouais.
Finale. Avant Roland-Garros,
il est pas bien
touché,
Verdasco.
Vous répondez pas à ma question. Est-ce que Djoko sur terre
Alors, évidemment. Il a des références sur terre battue.
La demi-finale de Madrid de 4 heures et 3 minutes.
Non, quelle est la question? Est-ce qu'il peut bien jouer ou est-ce qu'il va battre Rafa?
Mais il n'est pas allergique à la terre battue. Il peut bien jouer, ça veut dire quoi? Le mec, il est déjà deux mondiales.
Bien sûr qu'il peut bien jouer.
Est-ce qu'il va gagner Roland, quoi?
Oui, mais un type comme Murray.
Est-ce qu'il peut emmerder Nadal sur le long terme?
Mais bien sûr, il va gagner des tournois, il va gagner des matchs.
Il va gagner des tournois. L'année dernière, Nadal les a tous gagnés, par exemple.
Oui, mais il avait gagné Rome.
Déjà, ça change.
Il avait gagné Rome il y a quoi? En 2008, 2009.
Deux fois.
Il gagne deux fois Rome. C'est un bon joueur de terre battue. Il a eu finale à Monte Carlo où il était très bon. Il y a cette demi à Madrid. Et puis, c'est pas comme un Murray qui, même Murray serait numéro 2 mondial sur terre battue. Je pense qu'il est, il a pas un jeu qui colle à la terre. Djokovic, je vois pas pourquoi son jeu passerait pas sur terre battue. Il y a aucune raison.
Donc, il peut battre Rafa.
Déjà, Monte Carlo, il va jouer à la maison. Il va être chaud comme un tout fou.
Moi, je pense qu'il peut le taper sur terre battue. Mais par contre, faudra encore un match de dingue. Parce que, imaginez qu'il batte Nadal sur terre battue. Là, c'est un séisme. Hein. Je pense que même pour Nadal, je pense que l'enjeu, il est là. Hein.
C'est énorme. J'aimerais bien d'ailleurs un scénario différent de celui de l'an dernier où Nadal a mis 0-1 en finale à Verdasco. Il y avait 15 mecs sur le terrain.
Verdasco.
Ça serait bien une petite.
Si Nadal est en finale, je pense que ça va être compliqué. Ah, parce que
de toute façon, Djoko
se règle. Alors il va prendre ses pires paires sur les premiers tours.
Djoko ne pourra le jouer qu'en finale. Hein.
Ah, Djoko, je le vois pas en finale. Hein.
Non mais voilà.
J'ai ça quelque part que la terre commence.
Ah ouais,
bien sûr. La terre, il y a que ça.
Non, moi, je vois
cela
pas
dit,
Djoko,
je vous explique. La semaine prochaine, il va faire une semaine de pluie à Monte Carlo, donc vous enflammez.
Mais non, j'ai regardé la météo tout à l'heure. Il nous annonçait du beau temps. Il est mauvais.
Sans rire, c'est
chaque année il pleut à Monte Carlo.
C'est hyper dangereux. C'est quand même très tôt dans le calendrier.
J'ai regardé tout à l'heure la météo. Il mettait du soleil.
Vous allez pas bronzer.
Tout ça parce que c'est les 30 ans de la finale qui ne s'est jamais terminée entre Connors et Villas.
Ça, on reste à Paris, il va pleuvoir.
Mais non, pas du tout. Alors, je voudrais juste qu'on écoute Fabrice Santoro sur la terre battue. Est-ce que Djokovic peut briller sur cette surface? L'avis de notre consultant RTL et RTL, l'équipe sur le tennis, Fabrice Santoro.
Sur cette surface, on va voir s'il est capable d'obtenir des résultats de très haut niveau. Et en 2010, il avait beaucoup souffert lors de la saison sur terre battue. On verra un petit peu à l'approche des gros tournois comme Monte Carlo, Rome, Madrid et bien entendu Roland Garros, s'il est capable d'engranger un maximum de points. Mais s'il y parvenait, il serait vraiment candidat à la première place mondiale.
Eh oui. On va pas révolutionner l'analyse, mais quand même.
Non, ça va pas révolutionner, ça c'est sûr.
Je m'attendais à
non,
un
moi aussi, je
vais
dire, le mec il va décortiquer ses 100 euros, quoi. C'est un ordinateur
de
sur pattes.
Des matchs sur terre, il peut
je crois qu'il allait me sortir des trucs, quoi. Bon, si tu veux, on peut le faire.
Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise?
Non, si il gagne Roland, il peut être numéro 1.
Attends, autre chose, je sais pas, moi.
Il y a une chose très importante que si. C'est que Djokovic, s'il arrive à jouer aussi près de sa ligne comme il joue sur dur, là il va faire beaucoup plus mal à Nadal que s'il se met très loin comme il a tendance à faire souvent.
C'est voilà. Clair.
Sur terre, il a tendance
mais après,
à reculer un peu.
Après, il va falloir voir aussi musculairement au niveau des glissades, etc. Comment il récupère. Parce que de toute façon, sur les deux tournois, là, il arrive à battre, pour moi, Nadal à son propre jeu. On va voir comment physiquement il tient sur la terre. Mais s'il arrive à jouer en filière bien longue, à bien tenir... Au niveau des glissades, il va falloir voir au niveau de ses adducteurs s'il n'est pas trop fatigué, parce qu'il va être un peu émoussé de ce début de saison. S'il arrive à tenir, ça va être intéressant.
Parce que la bonne nouvelle pour Rafa, en effet, c'est que la terre est plus gentille avec les articulations.
Ouais, mais musculairement,
par contre, pour
c'est...
les adducteurs, voilà. C'est plus compliqué avec les glissades et tout ça. Il faut être bien, bien renforcé au niveau des adducteurs. Alors, vous parlez beaucoup de la fatigue de Djoko. Oui, enfin, il n'a pas joué tellement plus que les autres. Hein. Il a joué 4 tournois en 3 mois et demi. C'est pas non plus énorme. Il les a gagnés tous les 4, certes, donc il est allé jouer tous les matchs. Mais finalement, regardez bien, en nombre de matchs disputés, il n'est pas tellement plus élevé que les autres, hein, notamment les Federer et Nadal, ceux qui sont allés très loin dans les tournois. C'est déjà l'heure de la pause des infos. On se retrouve dans 3 petites minutes pour évoquer notamment Joe Wilfried Tsonga qui se sépare d'Eric Vinogradsky.
RTL l'équipe.
Croisé court gagnant.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis, toujours en compagnie d'Émilie Loi, de Myrthe Rambion, de Julien Varlet, de Carole Bouchard et de Ron Juice, Benoît Mélin, avec vous pour évoquer toute l'actualité de la petite balle jaune après Miami et Novak Djokovic qui foncent vers la place de numéro 1 mondial, la terre battue qui arrive, Nadal sur son terrain. On va évoquer rapidement le cas de Roger Federer, puis passer à la nouvelle de la semaine, également dans le tennis français, la séparation du couple qui durait depuis 7 ans, Eric Vinogradsky, Joe Wilfried Tsonga, Tsonga qui veut donner une nouvelle orientation à sa carrière et qui est à la recherche donc d'un nouvel entraîneur pour créer sa propre structure. Nous parlerons également des filles avec la victoire d'Azarenka à Miami face à Maria Sharapova. Kim Clijsters qui est blessée et absente pour un mois en raison de douleurs notamment à l'épaule. Et puis la Fed Cup, le barrage la semaine prochaine également de la France en Espagne avec Redzai, Cornet, Razzano et Johansson. Mais point de Marion Bartoli.
RTL l'équipe, Carrément Tennis.
Allez, avant d'évoquer le cas Joe Wilfried Tsonga, un petit mot sur Roger Federer. On en a vaguement parlé. Désormais, pour lui, les choses se compliquent encore un peu plus. Julien Varlet, il avait l'habitude de perdre régulièrement contre Nadal. Désormais, il y a aussi Djokovic. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Et surtout, avec son classement désormais de numéro 3 mondial, Federer, dans tous les gros tournois, devra se coltiner peut-être les deux coup sur coup s'il veut arriver à gagner un grand tournoi. Alors, on va pas dire opération impossible parce que le Suisse nous a déjà montré qu'il pouvait revenir de nulle part. Mais
si jamais tu lui dis, je crois qu'il va t'en foutre.
Je lui dis pas.
Il en a ras la casquette.
Il en a ras la casquette, mais c'est un peu la vérité quand même.
Il est numéro 3 mondial, le pépère.
Eh oui, mais bon. Je pense qu'il aime pas.
Non, mais le fait, non, il aime pas. Le fait que désormais il y ait deux mecs devant lui, déjà au classement, puis que ça soit en plus deux jeux qu'il déteste jouer et qu'ils doivent donc se taper les deux coups sur coup pour gagner un tournoi, ça c'est pas lui faire offense. Ouais, non, c'est la vérité.
Je suis d'accord, mais est-ce qu'il fait tout pour essayer de venir en concurrence avec ces deux mecs-là, ces deux joueurs-là?
Non.
Ben et voilà. Moi, quand j'ai
et
vu
on le... arrive sur terre battue, ouais. C'est pas forcément sa meilleure surface, même si c'est un joueur exceptionnel, il joue très bien. Donc ça va être, il va pas passer.
Et s'il gagne Monte Carlo.
Mais quand tu vois la finale.
Oh non,
mais sur un malentendu, il va être en opération commando à la Sampras pour juste gagner Wimbledon et puis voilà, parce que enfin je vois pas où ailleurs.
Pourquoi il vient Monte Carlo?
Ah, faut qu'il joue quand même.
Ah non,
alors je vous répondrai bien pourquoi, mais.
Ah d'accord. Ah. Ok.
Vous voyez le nom officiel du tournoi, c'est un gros sponsor. Ah, ouais, d'accord.
Pas faux, pas faux, pas faux.
Mais quand tu vois, mais c'est clair, parce que sinon, mais quand tu vois la finale.
Mais l'année dernière, elle est pas venue.
Ah non, mais ça lui avait été reproché.
Ça avait, oui, ça avait été d'accord.
Moi, en regardant la finale Djokovic-Nadal, je me disais, mais si, même s'il est pas devant sa télévision, je vois, enfin, c'est monstrueux pour lui quand tu vois ce que font les mecs là. Il est incapable aujourd'hui de tenir cette cadence-là. On l'a vu contre Nadal, il est complètement débordé. Alors après, il me semble que ce problème de revers, autant je veux bien qu'Anacon lui dise, faut bosser ton jeu vers l'avant. Il y a peut-être un moment donné aussi où il va falloir qui se mettent à faire des revers comme il sait en faire.
Donc, qui se mettent à faire parce du physique aussi.
Et des déplacements, je suis d'accord. Moi, je l'ai trouvé très lent, beaucoup moins tonique. Et là, la marche qu'il a sur les autres pour arriver jusqu'en quart ou demi, ok. Mais je pense que ça, il va pas s'en contenter longtemps.
Alors, je vais encore faire offense à sa majesté. Excusez-moi, Benoît Mélin, vous qui êtes son premier supporter. Il va sur ses 30 ans quand même, le garçon. Aussi.
Et alors
Ah mais ça fait déjà des années, comme tu dis. Faut qu'il travaille et tout.
Mais non, mais chaque année, ça fait un an de plus.
Mais la motivation,
Moi, je rejoins. Il a 30 ans, donc au niveau de la motivation, voilà. Elle est moindre. Il voit que les deux devant, ils sont monstrueux. Physiquement, ça va être de plus en plus dur. Donc c'est logique.
Les jumelles, elles courent partout.
Mais pour revenir sur ces deux-là, il faudrait qu'il fasse. Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il a envie de se faire violence? Moi, j'ai pas l'impression.
C'est pas une question d'envie. Je pense que c'est une question de pouvoir aussi à un moment donné. Parce qu'au fond de toi, t'as forcément envie, de certaines choses, mais est-ce que tu peux? Est-ce que t'as vraiment la... Tu vois, il y a quand même une...
Moi, je pense qu'il risque de passer quelques petites semaines difficiles sur terre battue, là.
Parce que lui, il n'y a pas que...
Jusqu'en juin, ça va être un peu dur.
Il n'y a pas que Nadal et... Il n'y a pas que Nadal et...
Parce que les autres sont décomplexés aussi, maintenant, donc...
Jusqu'à une certaine limite. Hein.
Jusqu'à présent.
Quand il va jouer à Wawrinka, ça va aller.
Et quand il va jouer Dolgopolov.
Depuis l'US Open, il perd contre Murray ou Djoko ou Nadal.
Attention, le retour de Dépotro aussi.
Logiquement, je vois pas où est-ce qu'il peut gagner des tournois. Là, hein.
Mais où ça va être intéressant, on parle de son physique. Merci, là, encore un peu plus sur terre battue, c'est là où on va voir soit il va vraiment chercher dans ses retranchements, soit c'est là où il risque peut-être d'exploser un peu en vol contre des joueurs qui seront meilleurs que lui physiquement, qui vont retenir la balle. Mais moi, l'exemple d'un Ferrer, je pense qu'il va faire très mal sur terre cette année.
Del Potro aussi.
Attention à David Ferrer.
Et puis chez Roger, moi, il y a ce truc. J'ai l'impression que des fois, honnêtement, il essaye de gagner en marchant. Qu'il y a des coups, il fait pas l'effort. Alors ça passe un tour, deux tours, mais quand il se prend un mec qui est aussi fort que lui, forcément, il a pas ces repères-là. Donc je comprends pas. Et ce jeu vers l'avant.
Il a très bien joué contre Rokus.
Et contre Wawrinka quand il le joue aussi. Et Anacon, donc, qui devait imposer ce
contre
jeu.
Gilles Simon, c'était
d'attaque.
Pas mal non plus.
C'était bien aussi, Gilles.
On est d'accord que c'est terminé le jeu vers l'avant, Roger Federer. Non, parce que je l'ai pas vu une seule fois, que ce soit contre. Il s'est fait passer deux fois par Nadal, il a arrêté.
C'est très bien, vous m'offrez la transition. Oh. Le jeu vers l'avant. Alors, allez. Ça, c'est le vieux serpent de mer du mec quand il y a un truc qui va un peu moins bien. C'est
mais il y en a qui ont raison de le faire.
Je vais jouer vers l'avant. Amélie Mauresmo, toute sa carrière, j'ai entendu, je vais jouer vers l'avant. Federer, je vais reprendre à jouer vers l'avant. L'autre, Simon, même
Djokovic,
Simon, à un moment, a dit il va falloir que j'avance un peu plus.
Mais
ils
ont
vers l'avant.
Ils ont raison.
Nadal, je vais vers l'avant.
Nathalie Tauzia.
Nathalie Tauzia,
ils ont raison. Nadal, il a gagné Wim ou US Open parce qu'il a fait avancer son jeu, ils ont raison.
Non, mais d'accord. Et alors maintenant, Joe Wilfried Tsonga, je vais aller vers l'avant.
C'est pas le même, à mon avis, c'est pas le même cas.
Alors t'as plus un mec qui joue au filet, mais tout le monde veut aller vers l'avant.
Et parce que les mecs,
c'est quand même extraordinaire.
Jouer vers l'avant, c'est pas forcément aller au filet.
Je sais bien.
Ils savent que physiquement.
Tsonga, s'il va pas vers le filet, je vois pas comment il peut jouer plus vers l'avant que ce qu'il fait en ce moment.
Non, mais Tsonga, c'est ridicule. C'est-à-dire que le type, il parle. il parle, t'as l'impression qu'il connaît pas son jeu. Non, mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est une personne lambda qui va parler du jeu de Joe Wilfried Tsonga. Non, ça vous fait pas
oui,
cette impression ?
Il te dit, je vais aller jouer vers l'avant.
Je vais aller jouer vers l'avant, mais il joue
c'est
comment là ?
C'est déjà ce qu'il fait.
Non,
c'est
ça il dit que c'est revenir à ses fondamentaux en fait. Et que c'est redevenir le joueur qu'il avait un petit peu oublié d'être.
Je vous le fais.
Fou et monté
le fondamental de Tsonga, c'est.
Non, le fondamental de Tsonga.
Quand t'as 20 ans, t'arrives sur le circuit, t'es encore. Voilà.
Non, le fondamental de Tsonga, c'est de plus poser de questions, de monter, d'y aller à contre-temps.
Ça n'existe pas un joueur de tennis qui se pose pas de questions.
Le problème, c'est que j'ai envie de dire qu'il
a pas gagné des trucs.
J'ai envie de dire qu'il a peut-être pas la qualité. Demain au filet ou même d'approche pour monter au filet qui va l'aider parce que les mecs en face c'est des relanceurs incroyables et en termes de passing tous dans le top 10 même dans le top 20 c'est du top niveau.
Moi je pense que Tsonga avant d'aller vers l'avant il ferait bien de bosser son revers et peut-être son retour de service mais ça c'est un autre problème.
J'ai un peu peur qu'ils prennent très cher quand
la nouvelle de la semaine je vais avoir c'était la séparation de Joe Wilfried Tsonga avec Eric Vinogradsky, 7 ans de vie commune sur le circuit. Et ben voilà, stop. Stop.
Bah ouais,
surprise
non, bah,
ou pas
bon, un peu, mais vraiment la question est-ce qu'il s'arrête de s'entraîner avec Eric Vinogradsky parce qu'il en a entre guillemets un peu marre de son discours et qu'il veut réellement se mettre en danger? Ou alors, voilà, il lance un peu de poudre aux yeux de tout le monde et qu'il a envie de changer parce qu'il voilà, il trouve pas forcément lui ses solutions. Mais dans ce qu'il dit, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il dit « je veux monter ma propre structure ». Sa propre structure, il l'a depuis déjà 4-5 ans avec la fédération. La fédé lui a offert, vraiment offert, parce qu'il paye pas grand-chose, un entraîneur, un préparateur physique. Donc, qu'il dise pas « ouais, je vais monter ma structure privée ».
C'est pas lui qui l'avait faite, c'était la fédé.
Oui, mais en attendant, il avait déjà sa structure.
Oui, mais c'est vrai que elle lui était quasiment dédiée.
Ouais, mais qu'il dise pas « je vais monter ma structure », il avait déjà une structure. Même s'il était à la fédération, il est quand même son entraîneur,
attitré, son
préparateur
physique. Ouais, mais pour lui, je pense que pour les joueurs, avoir sa structure et que t'es à la fédé, tu l'as pas à ta structure.
Ah, t'appelles ça comment ? Non, pour lui, à toi.
Il les a
choisis. Bah non, pour lui monter sa structure, c'est avoir son coach, payer son coach, prendre un préparateur physique, mental, ce qu'il veut, son kiné, etc. Là, Patrion, monter au sein de la fédé. T'es au sein de la fête, t'as quand même des comptes à rendre. Quelque part, t'as des comptes à rendre.
Non, mais
tu dois pas te sentir forcément libre.
Souvenez-vous, Amélie Mauresmo, elle a monté sa structure à un moment. Effectivement, je suis d'accord avec Imini. Vous devenez chef d'entreprise.
Ouais.
Vous payez les gens. C'est pas le même rapport. C'est-à-dire, vous pouvez parler
bah, directement. T'as les emmerdes en plus, quoi.
Oui, mais d'un certain côté, peut-être que c'est une façon pour lui de s'investir plus. Peut-être qu'il sentait qu'il s'investissait pas assez parce que peut-être tout était cuit dans sa bouche. Je sais pas, on l'a entendu essayer d'avoir un discours différent. Dire, voilà, maintenant je me suis mis à l'abri. Pendant tout un temps, je jouais pour mettre ma famille à l'abri. Ça, c'est fini. Peut-être qu'il a envie de voir si ça le motive
et
encore.
D'ailleurs,
je sais pas.
En attendant que sa structure soit en place, le seul qui l'ait conservé, c'est l'un de ses kinés,
encore
Michel Franco,
les problèmes physiques
qui a même servi d'attaché de presse en plus de son attaché de presse habituel pour communiquer sur la séparation. C'est quand même énorme, le kiné qui te raconte pourquoi. Enfin voilà.
Je trouve qu'il prend un risque. Alors c'est peut-être courageux, mais il prend un sacré risque là parce que.
En même temps, ça stagnait quand même vraiment.
Oui, non, mais c'est pas un joueur lambda. Joe Wilfried Tsonga, il y a un historique de blessures, de problèmes physiques. Il avait des gens. Eric Vinogradsky le connaît par cœur. Donc, moi, je trouve que là, il prend.
C'est pas qu'une question de tennis. Moi, je pense aussi, c'est blessures, c'est douleurs. S'il ment pas, d'enchaîner tout le temps ses blessures, il peut pas s'entraîner forcément à 100%. Donc, c'est pas qu'une question. Je pense que de tennis, c'est aussi la question physique de dire, voilà. Et si, aujourd'hui, je peux pas m'entraîner 3 heures alors que ça devrait être le cas. Et voilà. Et automatiquement, son tennis stagne.
Bon, écoutez,
et il gagne
moi,
pas beaucoup de
matchs. Que des conneries depuis 5 minutes. Donc, le but du jeu, je pense. C'est que Tsonga veut avoir un discours différent, mais discours positif, optimiste. Je pense que Vino était depuis quelques mois en train de lui dire, et le disait à la presse d'ailleurs, je pense que ça aussi, ça a dû mettre un petit peu de problème dans leur relation, qu'il pouvait plus. Il pouvait plus enchaîner tout ça, qu'il fallait faire très attention sur ses entraînements, que malheureusement sa blessure pouvait lui tomber dessus sans arrêt, que bien évidemment il avait un jeu super, bien évidemment qu'Enana il travaillait.
Il croyait plus.
Mais je crois que dans le discours, Vino était en train de se
le
dire voilà,
un peu.
J'ai eu une perle, on a eu un truc énorme. Malheureusement maintenant, tu vois, c'était genre, oui, c'est pas un joueur de tennis quoi. À la rigueur, il pourrait faire de l'athlé en le mettant des meetings bien particuliers, mais une année de tennis, c'est pas possible. Et je pense qu'à un moment, moi, je suis joueur, j'ai l'âge de Tsonga. Ok, j'ai des blessures, mais je pète le feu quand même. Tu vois, il a envie de s'éclater, ce gamin, c'est normal. Il a envie de se trouver un mec qu'il connaît pas justement, qui ne connaît pas de son gars et qui va lui dire fonce, t'es le meilleur, tu vas gagner, on y va à fond et on réfléchit pas. Je pense qu'il a besoin de ça.
Je pense qu'il faut qu'il fonce, même si ça tient qu'un ou deux ans,
ça pète, et ça pète sa carrière. Il voulait mettre à l'abri sa famille, c'est fait. Donc maintenant, allons-y gaiement. On verra bien. Si ça doit péter, eh ben ça pètera. Mais au moins que je me lâche, quoi.
Je suis bien d'accord.
Parce que l'année dernière, déjà l'aberration de jouer toute la saison sur terre battue, c'était hallucinant.
Il va faire la même là.
Il commençait à faire des ronds du fond du court sur terre. Joe Wilfried Tsonga. Là, je pense qu'à un moment tu te perds. Et c'est pour ça que là aussi,
mais après,
il a besoin.
Est-ce qu'il est vraiment blessé gravement? Est-ce que c'est pas dans la tête aussi? Parce que t'as quand même l'impression qu'il est blessé de partout. T'as quand même des blessures qui sont quand même assez.
Apparemment, il y a un problème de poids. Il n'arrive pas à lui faire perdre du poids. Et malheureusement, les articulations, les deux genoux, c'est comme Mardy Fish, hein, c'est pareil. Mardy Fish, il a perdu 15 kilos parce qu'à un moment, les deux genoux ont pété. Mais sinon, avant, il disait, mais non, mais là, chez moi, je suis pas gros, je suis pas gras. Il était pas gros, mais bon, il était
pour un joueur de tennis,
au-dessus du poids que normalement devrait faire un sportif de haut niveau. Les deux genoux ont lâché et il a dit, ok, là, il faut que je fasse attention. Il perd 15 kilos. Son gars n'arrive pas à maigrir.
Alors, avant qu'on évoque,
il passe pas la barrière des 90 kilos.
Qui pour tenir cet éventuel nouveau discours, on se lâche à fond pendant deux ans? Et je suis assez d'accord avec vous, c'est peut-être une bonne idée.
Si c'est deux ans, oui, c'est deux ans.
Je voudrais
qu'on
écoute une nouvelle fois, ça va vous faire rire. Mais pourtant, il y a une explication qui est pas mal aussi.
Ah, bon.
Cette fois, écoutez bien, de Fabrice Santoro, notre consultant, sur la séparation Erwin Ouraski, Joe Wilfried Tsonga. Lui, il voit aussi, dans la durée de cette association, une raison de cette séparation.
C'est une surprise et c'est une triste nouvelle, j'ai envie de dire, puisque c'est un beau binôme, c'est un couple que l'on avait l'habitude de voir ensemble depuis de nombreuses années. Et Joe avait obtenu ses meilleurs résultats aux côtés d'Erik Vinogradsky, donc c'est un petit peu regrettable. Mais je crois qu'il a envie en ce moment de prendre un nouveau départ, de jouer de manière plus agressive, peut-être d'entendre une nouvelle voix, un nouveau discours. Et je crois aussi que c'est la dure réalité du sport de haut niveau, que ce soit dans les sports d'équipe, dans les sports individuels. Très souvent, les sportifs ont besoin de prendre l'air, de changer de discours et d'accompagnateur ou d'entraîneur. Et puis, on souligne pas assez qu'un joueur et un entraîneur vivent ensemble tout au long de l'année. Ce sont des couples qui voyagent sur le circuit 8 mois par an. Donc, à un moment donné, il y a des signes d'usure qui peuvent se manifester. Donc, la décision de Joe, finalement, correspond à celle de Roger Federer l'année dernière, de s'adjoindre les services de Paul Anacone ou à Richard Gasquet qui a nombreuses fois changé d'entraîneur ou Gaël Monfils également. Enfin, c'est une décision qui est regrettable à mes yeux, mais qui correspond à la dure réalité du tennis de haut niveau.
Fabrice Santoro, micro d'Isabelle Langer. Alors lui parle du couple, 8 mois sur le circuit ensemble, toujours le même discours, le cap des 7 ans, hein, dans un couple on sait que c'est très important, enfin d'après les statistiques. Est-ce que ça peut jouer, ça aussi, le fait d'être toujours l'un avec l'autre, Julien?
Il aurait eu des résultats, si je posais la question, là, comme les résultats sont en baisse aussi.
Ils vont nous donner le nom de leurs enfants cachés aussi, tu vois, 7 ans, t'as fait plein d'enfants.
Mais non, mais c'est quand même pas faux qu'ils sont tout le temps ensemble.
Oui, mais si les résultats suivaient, ça poserait pas de problème. Si les résultats avaient suivi, il n'y aurait pas eu de soucis.
C'est toujours quand il n'y a pas de résultats qu'on se sépare, on est bien d'accord.
Mais c'est pour ça.
C'est pas vrai. Yousni avec Sopkin, ça fait une éternité qu'ils sont ensemble, ils ont eu des hauts débats, il est tout le temps là. Alors à un moment, voilà.
Ça fait 19 ans. Le plus vieux, c'est Nadal avec son oncle, 20 ans.
Ouais, mais ça, c'est autre chose, c'est une autre relation.
Sinon, il y a Ferrer avec Pilès depuis 12 ans.
C'est énorme.
Et Dieu sait si Pilès, il en prend plein la poire parfois.
Ouais, mais sinon, c'est tout. Il n'y avait pas plus vieux comme association.
Non, mais c'est beaucoup. C'est évidemment beaucoup. Mais arrêtez de parler des 7 ans. Le couple.
C'était un duo qu'on pensait qu'il allait être éternel.
Avec Fabrice Santoro, faut le faire passer ou quoi? Non, mais parce que qui te dit, ouais, c'est sportif de haut niveau, c'est comme ça, à un moment, faut changer de discours. Ben oui, si c'est ça l'analyse, bien évidemment.
C'est pas faux.
Non, mais on l'entend, ça fait 15 ans qu'on l'entend partout, ça, on le sait, c'est une évidence.
Mais d'accord, mais à un moment, chez lui, c'est traduit maintenant.
Toujours est-il qu'il doit y avoir un malaise, puisque ni l'un ni l'autre ne veulent s'exprimer là-dessus.
Ça a été dealé, ça.
Personne ne veut s'exprimer là-dessus. Si t'as Franco qui, à un moment, ose dire quelque chose, c'est parce qu'il a l'autorisation de le faire, sinon il serait plus du tout dans l'équipe. Donc c'est que son gars lui a dit, écoute, va t'emmerder avec les journaleux à leur répondre parce que moi ça m'intéresse pas, dis que tout va bien, nanani, et je monte ma cellule. Il va jouer au tennis tout seul dans son coin pour voir un peu comment ça fonctionne et puis il va.
Donc là il joue en Suisse un peu.
Il va attendre de voir les propositions.
Non, et puis tu verras, il aura un entraîneur dédié de la fédération par intérim, notamment qu'il en trouve.
Alors mais qui? Alors qui?
T'as peut-être raison.
Ça va être le cas.
Mais qui pour entraîner son gars? Donnez-moi les noms.
S'il veut monter sa propre structure, pour moi c'est une structure privée qui n'a rien à voir avec la fédération.
Et avec qui?
J'ai l'impression qu'il sait pas.
Avec qui?
S'il
l'a déjà monté, parce que pour moi c'est quand ils annoncent cette séparation.
Il a rien monté.
Je dis ok,
il a déjà réfléchi, c'est cadré quoi.
Il sait où il va quoi. Pour moi il sait. C'est pas possible qu'ils disent, après 7 ans avec Vino, on arrive sur Terre, potentiellement, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce que je joue, est-ce que je joue pas? Est-ce que je dois y aller à fond, est-ce que je dois pas y aller à fond? Est-ce que je dois privilégier le gazon ou peut-être attendre un peu pour être à fond sur la saison américaine? Ou bon, évidemment, mon jeu va se mettre plus facilement en place. Le mec, il est paumé. Donc forcément, il a qu'à dire. Je peux pas croire deux secondes qu'il arrête avec Vino en disant.
Moi, je pense qu'il peut arrêter tout seul. Ouais. Il peut arrêter avec Vino sans savoir ce qu'il va faire d'accord. Demain.
Moi, j'ai l'impression qu'il sait pas.
La façon, enfin, dont ça a l'air de se passer. Pour moi, ils ont arrêté. Ils ont discuté. Ils ont arrêté. Et voilà. Avoir pensé un seul instant de qui il allait avoir.
Bah, on va scruter demain. D'ailleurs dès Monte Carlo.
Je pense qu'il ne sait pas du tout avec qui va monter
la structure. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place doucettement. Oui. C'est Rachid, mon fils, son gars.
Impossible.
Alors, moi, je me suis dit ça aussi, puisqu'ils s'entraînaient. Et je pense qu'à Monte Carlo, ils vont bosser ensemble.
Ils s'échangent vachement. Ils sont sans arrêt en relation tous les deux.
Mais comment tu veux qu'ils tiennent les entraînements physiques de Rachid?
Rachid est pas con. Rachid, il va se mettre en fonction du joueur qu'il a sous la main.
À son joueur.
Mais même sans ça,
t'imagines les égos. Pour l'entraîneur, attends, c'est exceptionnel.
Oui, mais
t'entraînes qui? Attends, j'entraîne mon fils et
tout. Ouais, mais alors, pour un mec qui veut monter sa structure, partager un coach avec un autre mec, déjà,
c'est la structure privée. Mais Rachid, son gars, il rêve. Et quelque part, il envie également fils.
Mais Rachid, est payé à moitié, il me semble, par la Fédération Française de tennis. Donc vous êtes sympathique. Et au niveau des égos, moi, j'y crois
c'est
pas
pour ça que je vous dis qu'une fois de plus, la structure, il avait
toujours
la Fédération.
La Fédé dans l'histoire.
Bien sûr.
Et au niveau des égos, il faut falloir m'expliquer comment
c'est. Attendez, c'est pas pareil. Recevoir un chèque de la Fédération Française de tennis en me disant tu peux aller choisir Benoît Mélin, Julien Varlet ou Eric Silvestro.
Je rappelle que ça a quasiment coûté la place de Dominguez, cette histoire de.
Oui, ça n'a rien à voir avec la Fédé. Pardon ?
C'est quelque part un petit peu scandaleux qu'un garçon comme Gaël Monfils qui gagne très bien sa vie
sur
circuit.
Oui, enfin scandaleux ou pas, c'est la règle.
Ouais, non, mais ça, tu sais, ça existe.
Moi, si je peux prendre, je prends.
Oui, mais qu'on ne dise pas dans ce cas-là qu'on va monter sa structure privée avec les sous de la fédération.
Mais si, mais c'est pas pareil. Mais attends, c'est comme un sponsor. T'as un sponsor demain, j'en sais rien.
Non, mais la Fédé de ses meilleurs joueurs, jusque-là, c'est pas scandaleux. Mais alors, à part ça, ok, peut-être.
Dans ces cas-là, tu montes ta structure avec les gens, avec les garanties qu'il va avoir à monter
Carlo. C'est quoi cette histoire avec Lendl Meurette et
Miami? Non, mais c'est n'importe quoi ça.
Oui, j'étais à Miami.
Ça fait du buzz cette histoire ou quoi?
Non, mais c'est sorti. Tout le monde veut.
Meurette, c'est séparé de Correggia, on rappelle.
On se dit, il est reparti avec un entraîneur.
Le profil pour entraîner de son gars est pas simple du tout. Il y a pas des tonnes de noms qui surgissent comme ça. Mais non, parce que j'en vois pas.
Walter Bartoli.
Ça sera pas en France. Moi, je pense que ça sera pas en France.
Je pense qu'il est au bout du rouleau, le pauvre. Il se rend compte que tennistiquement, c'est quand même pas terrible. Il a perdu du terrain grave. Physiquement, effectivement, faut qu'il perde du poids. Il avance plus. Il est un peu paumé. Pour moi, il va végéter un peu. Donc c'est pas bien, hein, mais je pense qu'il va végéter un peu pendant quelques temps.
Il peut se faire une petite déprime.
Vous excluez la piste française. Pour vous, c'est forcément étranger.
Ça peut être un binôme, effectivement, avec Rachid et mon fils, ils sont hyper potes.
Un Lionel Roux, par exemple, avec qui il s'entend bien.
J'y crois pas deux ans. Non.
Mais le problème, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas.
Non, il va prendre à l'étranger.
Il y a quelqu'un qui change de discours, complètement.
Il lui faut un winner. Soit un Australien, soit un Américain.
Non, mais les amis, est-ce qu'il y a un grand coach actuellement qui va avoir envie de prendre un de son gars en sachant que ce garçon peut se péter
Bien sûr, tu prends
en sachant que ce garçon.
Bob Brett.
Coach a de l'ambition. En sachant que ce mec peut se péter tous les mois. Est-ce qu'il y a un grand coach qui va vouloir prendre un garçon?
Mais qui va refuser ton
mais attends, mais qui peut refuser un entraîneur qui est top, quasiment top, allez, top 10, top 15?
Encore faut-il qu'il soit dispo, les entraîneurs, les grands entraîneurs.
Encore faut-il que son gars lui montre qu'il va pas se péter tous les mois.
Je suis assez d'accord avec Carole, on a l'impression qu'on arrive, salut de son gars, je veux un coach, il y en a 15 qui vont taper à la porte. Je suis pas sûr.
C'est une star aux États-Unis.
Il quitte son entraîneur, tu regardes sur LCI tous les trucs et tout, tous les bandeaux.
Ils ont rien d'autre à faire toute la journée.
Son gars aux États-Unis, c'est une star.
Mais oui.
C'est une star.
Mais je suis pas sûr que les coachs vont se battre pour l'entraîner, moi.
On va voir. De toute façon, c'est ça qui est marrant, c'est que la parenthèse est ouverte.
C'est pour ça qu'il a pris un risque.
On va voir qui va se porter candidat. Et surtout, qui sera le nouveau coach de Joe Wilfried Tsonga. Mais donc, peut-être pas tout de suite, faudra peut-être.
Mais qui va se porter candidat? Mais il y a une liste de 100 noms.
Mais pour l'instant, vous n'avez pas été foutu de m'en donner deux.
Bon, parce que je suis pas dans les petits papiers, mais il a déjà un nombre d'appels, ça doit être colossal.
Bah ouais, je sais bien, mais bon, des grands entraîneurs qui veulent quitter le boulot qu'ils ont maintenant pour aller entraîner Tsonga.
C'est pas une question de grands entraîneurs.
Tu vas le chercher déjà, il vient pas.
Oui, mais s'il est occupé, tu vas pas le chercher comme ça.
Il va aller chercher Larry Stefanski.
Ah voilà, peut-être. Qui en a marre de Roddick aussi.
Ah.
Mais moi je le voyais
on l'a évoqué celle-là.
Mais moi je le pensais avec Murray.
Moi. C'est ce genre d'entraîneur.
Moi je le pensais pour Murray.
Ça c'est bon Juju ça.
Ouais, mais moi je le pensais pour Murray Stefanski.
Ah, Stefanski c'est un mec qui risque d'être courtisé.
Parce
qu'avec Roddick aussi là, tiens, on parlait d'usure.
Il était à Augusta hier.
Parce que oui, il faisait caddie pour un jour de golf.
Faire le pro-am.
Qui Murray?
Non, Roddick.
Bah, ah bon, c'est peut-être mieux qu'il fasse ça d'ailleurs.
Parce que Murray aussi est sur le marché. Hein. Donc,
Murray, c'est pas mal aussi. Hein.
Bah, Stéphane qui aime aussi bien les pétés du bulbe, il ira sur Murray lui.
Donc, puis il est quand même top 5, notre ami Andy. Donc, moi je dis ça.
Ça va être intéressant. Bon, allez, vous avez pas de solution, j'ai compris. Mais c'est normal.
Ah non,
personne
non
ne l'a. Donc,
ah, ça, je
mais moi, je vois la solution étrangère.
On vous a donné quelques pistes. Allez, Rachid, peut-être dans un premier temps. Stéphane qui.
Sven Grønvold. Pardon, c'était une blague.
Ah, ouais. Mais je pense que vous pensez
moi
pas
j'avais
que c'est
pensé
comme
à Lundgren, mais
vous allez me prendre pour une nague, mais comme toute relation, là, 7 ans collé serré quand même pendant 8 mois avec son entraîneur, je vous dis que pendant un mois ou deux, là, en plus, il
va
sur Terre, il va se faire plaisir un peu, vous allez voir.
Avec mon fils, ça
va bosser
dur.
Avec mon fils et Rachid.
Ouais, ouais, ils vont se prendre. Ouais. Ils vont se rappeler, tu sais, les petits circuits d'été quand ils étaient gamins et tout.
2 mois de plaisir, allez.
RTL équipe, carrément tennis.
On parle, et l'heure tourne, hein, les enfants. Oui. Autant on a fait beaucoup sur les filles la semaine dernière, autant cette année, cette semaine, je m'excuse d'avance auprès de toutes les autres.
Ça cartonnait à Miami, ça, sur le tournoi, cette chanson. Martin Solveig, Bob Sinclair, Hello, ils ont tourné le clip à Roland Garros l'année dernière. Mais faut-il vous abonner?
C'est dépassé. Ils ont fait le Stade de France. Il a fait
le
Stade de France.
Oui, mais il y a la suite, mais il n'empêche que ça marchait à fond pendant le tournoi de Miami.
Ouais, surtout aux Pearls, ouais.
On veut pas savoir.
T'as oh là là.
Ah non, ça c'est à Shanghai.
Oh là là. On peut faire un guide touristique.
Le guide touristique de Benoît Mélin sur le circuit. Tu devrais faire
le
ça.
Pearl, c'est
arrête,
c'est...
on va parler des filles, vous pétez les plombs là.
Ça se montre.
Écoutez la voix de la sagesse.
Bien. Bon, la Fed Cup, composition de l'équipe de France pour affronter l'Espagne en barrage. C'est important. Rezaï, Cornet, Razzano, Johansson. Le retour de Rezaï, pas de Bartoli, mais Rezaï quand même dans l'équipe.
Le retour de Rezaï.
Non, mais ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Déjà, elles sont passées par miracle au premier tour. Mais là, ça
mais
va
non,
être...
elles sont en barrage.
Mais c'est un massacre. Mais non, mais elles ont gagné 2 matchs. Déjà, les 2 matchs qu'elles gagnent, c'était un miracle.
Non, mais sérieusement, heureusement, quand les Espagnols. Honnêtement...
Est-ce que quelqu'un autour de cette table croit en une potentielle victoire des Françaises contre les Espagnols?
J'ai envie de te dire oui, parce qu'il y a qui. Non, mais la chance qu'ils ont,
qui,
c'est que
on dirait Santoro qui répond.
Non, mais
attends la suite.
Honnêtement, la chance qu'ils ont, c'est que
les Russes, elles sont pas loin de gagner.
Et puis la chance qu'ils ont, c'est que l'équipe espagnole. L'équipe espagnole est quand même diminuée. Il n'y avait pas Carla Suarez Navarro.
On a vu l'équipe espagnole. C'est Martinez Sanchez. C'est comment elle s'appelle?
Medina Garrigues.
Ah ouais.
C'est jouable. La France a l'habitude des barrages.
Le problème, c'est qu'on arrive avec des filles qui ne sont pas du tout en confiance. Aravan, c'est.
Oh, t'exagères, elle est bien en ce moment.
Elle vient de perdre contre la 258e joueuse mondiale.
Si, elle va jouer en simple.
Mais elle peut pas jouer, tu rigoles quoi.
C'est Cornet Razzano.
Mais pourquoi tu la prends alors?
Pour pas l'emporter au cas où.
Mais parce que. La semaine dernière,
alors tu prends pas Rezaï et tu prends Pauline par mentir. Alors t'es avec nous la semaine dernière, si tu veux faire une équipe.
Oui, mais c'est un peu. Pauline, j'adore, mais c'est un peu. Elle a pas de résultat non plus.
Et puis.
C'est pour pas jouer.
Non, mais je pense que pour aider.
L'esprit collectif.
Elle est numéro 5.
Mais je pense que pour aider aussi Aravan, peut-être qu'ils veulent la laisser dans ce groupe-là, mais là tu peux pas la faire jouer.
Juste pour dire justement, elle s'est rapprochée de Nicolas Escudé, d'Alexia de Chambalray, discute beaucoup sur des matchs. Elle va les voir juste pour discuter comme ça, passer du bon moment
elle
avec eux.
Donc,
je pense qu'il l'entoure à ce moment-là, que c'est pour ça qu'elle est sélectionnée, qu'il l'emmène, et c'est pas plus mal.
Mais là, c'est difficile de faire des équipes. Même l'Italie, les deux meilleures joueuses ne jouent pas. Schiavone se concentre sur Roland. Et Penetta est blessée.
Mais elles ont joué.
Elles ont gagné l'année dernière en plus. Elles ont déjà gagné.
Je pense que Razzano peut, c'est la seule qui peut faire quelque chose.
Mais
après, je pense que ce serait vraiment une bonne chose, surtout, c'est qu'elle perde.
Ouais. Ah bah ça serait légitime, ça fait déjà 3 ans qu'on
voudrait pas
arrêter.
Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle perde pour qu'elle redescende et que là, ça mette vraiment un énorme
le feu.
Voilà, parce que...
Exactement.
Et on lance les Caroline Garcia et tout ça, et c'est parfait.
Ouais, on passe à autre chose.
Non,
on tourne la page.
On révolutionne. Un coup de désherbant et c'est parti.
Là, il faut un choc.
Un petit retour sur Miami. Alors, Azarenka qui revient, numéro 6 mondial. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas brillé. Elle avait déjà gagné ce tournoi il y a 2 ans. Sharapova en finale.
Je trouve que Sharapova, c'est super bien. Elle est en finale. Moi, j'adore. Par contre, le niveau de jeu, en termes de niveau de jeu, je ne retrouve pas du tout.
Pas Jojo, ouais.
Et c'était pas loin parfois d'être quasiment catastrophique.
Non, mais c'était pourri cette finale. Elles sont insupportables à hurler. Mais
on
ne les changera
pas.
C'est pas possible.
Azarenka a dit qu'elle peut pas faire autrement.
On les changera pas. Mais pour Azarenka, c'est pas mal. Parce que la fille, on disait qu'elle stagnait un petit peu. Là, elle s'est battue physiquement. On croise les doigts pour qu'elle tienne encore un peu. Mais moi, Sharapova, j'ai trouvé que c'était
Elle bosse grave.
Mais c'est pas la question qu'elle bosse pas. C'est qu'Indian Wells, elle a abandonné parce qu'elle s'est blessée.
Moi, j'ai
vraiment c'est elle, choquant quand on joue au tennis qu'on fait une elle saison complète bien. À tout moment ouais, tu peux te péter
Azarenka l'année dernière studio, c'est pété Azarenka
voilà, si tu mettais le mental de Sharapova sur le jeu d'Azarenka, elle serait numéro 1 mondial.
Oui, oui.
Sauf que la saison dernière, Azarenka a pété tous les mois. Que...
Ouais, mais elle grandit.
Là, je suis d'accord avec toi.
Elle gagne un titre. Il y a pas de match. Il y a pas de finale.
Il fallait qu'elle aille le chercher quand même.
Est non classée quoi. Elle a une attitude. Mais elle a Maria
Sharapova,
c'est parfait.
La fin du match, la fin du match.
Azarenka, elle bat pas que Sharapova pour gagner le tournoi.
Elle bat Clashters, oui, mais c'est vrai, mais je suis d'accord. Et puis la fin du match, où ça redevient un peu tendu, elle va le chercher.
Elle gagne quand même Miami, quoi.
Mais c'est pas ça. Elle gagne Miami, elle gagne.
Mais souvenez-vous, la saison dernière, elle a passé toute la terre battue à abandonner.
On verra. Moi, je pense qu'elle est un peu plus mûre et elle peut faire match. Clashters out pour un mois.
Ça, c'est un seul coup de
pas si on la verra à Roland.
Pas comme l'année dernière.
Moi, l'info de Miami, c'est que Petkovic fera plus sa petite danse des canards à la fin des matchs. Et ça m'a détruit le mental, ça.
Mais Clashters, c'est un sale coup pour le circuit quand même là.
Petkovic, super.
Attends, elle est géniale.
Elle me plaît. Elle nous fait
plaisir.
Elle
doit passer le dernier cap. J'avais mis une réserve la semaine dernière. Je l'ai remis.
Elle en a déjà passé un énorme. Elle en a déjà passé un énorme. Non, mais je veux dire, mais revenons sur Clashters. On se plaignait qu'on n'avait pas assez de cadors et tout ça. Là, on en perd une pour un mois. Même si Wozniacki est la meilleure figure, on n'est pas bien quand même.
C'est vrai, on n'est pas bien. On verra si on est mieux la semaine prochaine. Nous serons en direct de Monte Carlo pour vous faire le carrément tennis en direct du cours central du Monte Carlo Country Club avec la Méditerranée derrière. Mais non, on sera bien, rien du tout. Merci à tous.
Sous la pluie.
La semaine prochaine pour carrément tennis.
RTL, l'équipe, la radio sport et info.